Bonjour chers auditeurs, bienvenue à cet épisode de l'investissement décomplexé. Je m'appelle Raymond Kerzerou, directeur de la recherche avec PWL Capital. Pendant les prochaines semaines, nous consacrerons nos épisodes à la crise du coronavirus. Tout d'abord, nos pensées sont avec tous ceux qui sont affectés par la crise, que ce soit par la maladie, une perte d'emploi ou autre. Au cours des prochaines semaines, nous vous proposerons des mises à jour de marché, des questions de clients et des conseils. Comme à l'habitude, je vous présente mes collègues James Parkin, gestionnaire de portefeuille. Bonjour James.
Bonjour Raymond.
Et François Doyon-La Rochelle, lui aussi gestionnaire de portefeuille. Salut François.
Bonjour Raymond.
Alors, au vu des circonstances actuelles, mes camarades et moi, nous joignons ensemble par téléphone. Nous respectons bien sûr les consignes de distanciation sociale. Rebonjour messieurs. Alors, tout d'abord, nous vivons, juste pour une mise en contexte, donc nous vivons tous le télétravail depuis maintenant 2 semaines. J'aimerais préciser que PWL a lancé sa politique spéciale de télétravail dès le début de la crise. Est-ce que vous pourriez me dire comment ça se passe pour vous?
Je peux commencer. Ben, on a appris très rapidement à se réorganiser. Ça fait un peu long pour se remettre dans une routine puis de réapprendre à travailler. C'est un ajustement. Je pense que c'est pour le bien-être de tous. Donc, je pense que chez PWL, on a bien fait les choses. Donc, pour ce qui prime, c'est la sécurité de l'équipe puis de leur famille. Mais pour moi, c'est comme si, en ce moment, c'est comme si j'étais au bureau. J'ai accès à tout ce que j'ai besoin pour faire mon travail. Donc, soit autant en termes de communication avec clients ou avec les membres de l'équipe. Donc, ça va bien.
Oui, pour moi, l'ajustement s'est fait très, très bien. Il faut dire que la compagnie, on a investi beaucoup dans notre infrastructure informatique depuis 4 ans. Et donc, on a pu mettre cette politique en place, comme François a dit, bien avant que le gouvernement ait obligé le télétravail. Il faut aussi dire que le gouvernement nous a déclaré comme un service essentiel ici au Québec et en Ontario. Donc, nous, on doit rester ouverts. Cette initiative, encore une fois, ça protège la santé non seulement de nos employés, mais ça nous assure qu'on va être là pendant toute la période de la crise pour supporter les clients et s'assurer qu'un service continue. Fait que pour moi, ça va bien à date. À l'occasion, mes chats me dérangent quand je suis au téléphone. À l'occasion, mes enfants sont un peu bruyants, mais nonobstant ça, la technologie fonctionne très, très bien.
Excellent. C'est sûr que la première partie du mois de mars, ça a été très, très volatile, mais ça s'est beaucoup accéléré là, depuis les 2 dernières semaines. Pouvez-vous me parler un peu des dommages causés au portefeuille par la crise des marchés?
Oui, ben je peux y aller, Raymond. Ben, il y a eu des reculs importants sur toutes les places boursières mondiales. Si on regarde les chiffres à jour là, sur le S&P TSX au Canada, on est à moins 23%. Sur le S&P 500, en dollars US, on était à moins 23,4%. Et S&P 500, en dollars canadiens, presque moins 16%. Puis l'indice Asie, Europe, pays développés, c'est moins 18% en dollars canadiens. Donc, c'est des baisses qui sont assez importantes. Puis ça, c'est en date du 25 mars. Donc, c'est après des rebonds assez importants qu'on a eus mardi cette semaine et même hier, mercredi, spécialement au Canada, où est-ce qu'on avait des rebonds d'une dizaine de pourcentages. Là.
Ça, c'est pour l'année à date, François?
C'est pour l'année à date, exactement.
OK, c'est bon.
Le mois de mars, là, sans surprise, a été le pire des mois. C'est sûr que le haut des marchés était atteint le 19 février, si je ne m'abuse. Là. Mais ça fait depuis ce point-là, en février, qu'on a commencé à baisser. Mais le mois de mars, était c'est là où est-ce qu'on a enregistré les plus fortes baisses. Sur un portefeuille là, pour un client qui est 40% revenu fixe, 60% actions, présentement, ben, en date du 25 mars, on est à moins 15%. Puis avant les rebonds de mardi et mercredi, on était à moins 20%. Donc, ces rebonds-là, si on n'est pas dans le marché, il faut avoir un impact assez substantiel sur les actifs du portefeuille parce qu'en date de 2 jours, on a repris 5%. Sur ces portefeuilles, un portefeuille 40% revenu fixe, 60% actions.
Donc, pour ma part, c'est un exemple parfait que oui, on peut ressentir la volatilité négative comme étant pénible. L'analogie, ce serait comme un manège américain, un roller coaster qui les collines russes où on monte puis on descend. Et oui, c'est épeurant quand ça descend, mais faut pas débarquer du manège en pleine motion. C'est très, très dangereux. Alors, on peut pas prévoir les rebonds comme ça. Ceci dit, ce qui est deux choses que j'aimerais que nos auditeurs se souviennent, c'est que, et souvent, c'est pas les financiers qui le comprennent bien, c'est les ingénieurs. La mathématique à la hausse et la baisse, c'est pas la même chose. Fait que si un portefeuille a perdu moins 20 %, ben, ça prend 25 % de plus-value pour revenir au montant qu'on avait avant. Donc, quand François explique qu'un portefeuille balancé 40-60 au 25 mars a baissé de 15 % mais de moins 20 en date de la fermeture deux jours avant, c'est pour dire à quel point il y a eu une reprise assez forte. C'est sûr que les manchettes négatives, c'est pas fini. Nous, où on est en Amérique du Nord, la vague, on nous annonce ce matin, le 26 mars, dans les manchettes américaines, que la vague des infections va arriver dans trois semaines au niveau du sommet. Donc, c'est très épeurant, puis il risque d'avoir des nouvelles économiques qui vont faire peur. Mais ceci dit, ceux qui ont, comme François dit, sont restés disciplinés, mais là, ils ont bénéficié de cette reprise depuis deux jours.
Face à la volatilité, comment est-ce que vous réagissez à ça? Puis c'est quoi vos préoccupations? C'est quoi les priorités dans la conduite de l'opération de gestion de portefeuille?
Ben, Raymond, moi, je suis en pourparlers avec beaucoup de clients pendant la journée, même en soirée. Et nos clients, la vaste majorité, là, au-dessus de 95 % ils sont disciplinés, comme ils l'ont été depuis très longtemps. Et donc, ils savent qu'ils ont confiance que le système capitaliste va faire en sorte que les valeurs vont revenir. Ça va prendre un certain temps. Cette crise, c'est en fait, elle est différente, elle ne ressemble à aucune autre, mais en même temps, il y a des similitudes. Et donc, la préoccupation pour nous toujours, c'est le client qui voudrait justement débarquer du manège. Fait que ceux-là, on passe un peu plus de temps, c'est des clients plus récents ou des clients qui ont des situations économiques difficiles. Il faut dire qu'on a quelques clients qui ont dû procéder à 100 % de mise à pied de leurs employés. On a d'autres clients qui sont des gestionnaires de très grandes entreprises et qui songent potentiellement à remercier 50, 60 ou 70 % de leur cadre col bleu et col blanc. Et c'est du jamais vu, ça. Alors, les émotions peuvent nous emporter. Notre préoccupation, nous, comme conseillers, c'est de conseiller nos clients sur une base comportementale de rester disciplinés à travers cette crise.
Je pense que c'est un peu la même chose ici. Il ne faut pas se laisser emporter par la vague. Il faut faire attention à nos propres émotions. Il faut garder la tête froide. Comme si James, on était en communication avec les clients. Il faut gérer leurs émotions, mais il faut gérer. Il faut gérer les nôtres aussi. Tu sais, on lit les journaux, on lit des rapports sur les marchés. Puis nos clients, certains ont peur, puis ils nous transmettent ça en quelque sorte. Mais nous, on est aussi investisseurs. On a aussi une famille qui peut être affligée par le coronavirus. Puis notre capital humain est directement relié au marché boursier. Donc, pour nous aussi, ça en fait un lot à gérer, mais il faut garder la tête froide. Il faut se dire que le marché capitaliste ou le capitaliste va survivre à ça, puis on va voir la lumière au bout du tunnel un jour. Puis il faut toujours se revenir, est-ce qu'on a un portefeuille qui est bien bâti, qui est bien diversifié géographiquement, par secteur, par titre, par devise? Il faut revenir aux bases, puis si les bases sont bonnes, et qu'on croit au capitalisme, on va s'en sortir.
Oui. Puis dans la première semaine ou aussi la semaine dernière, on a eu des appels conférences importants là, avec nos gros fournisseurs de fonds. Donc, c'était aussi, je pense, une priorité là, de notre côté à vérifier avec les fournisseurs de fonds que nos clients sont bien traités là-dedans. Quand le marché est extrêmement volatile, il faut être sûr que les gestionnaires de fonds gèrent bien cette volatilité-là et également les entrées et sorties de fonds par rapport à tout ça.
Oui. Il y a une chose que j'aimerais rajouter, c'est là aussi qu'on apprend à connaître un peu plus nos clients puis leur vraie tolérance au risque. Des clients qui ont été avec nous à travers les périodes de 2008-2009, on a vu comment ils ont réagi. Souvent, ils réagissent de la même façon maintenant. mais les clients avec qui on n'a pas vécu des périodes comme ça de grande volatilité parce qu'ils sont plus récents dans l'équipe, ben c'est là qu'on voit comment ils réagissent à cette volatilité-là. Puis aussi, il faut dire que chaque client a une situation qui est différente. Certains peuvent être médecins et ne sont pas prêts de perdre leur emploi. Donc, pour eux, ils vont sortir de la crise sans impact vraiment financier autre que leur portefeuille. D'autres sont près du, je dirais pas près du gouffre, mais qui ont perdu leur emploi ou sont sur le point de perdre leur emploi. Donc, tout ce qui leur reste, ben, c'est leurs actifs. Donc, c'est peut-être plus difficile pour eux.
Donc, une des autres préoccupations que nos clients ont, c'est quand est-ce qu'il faut rebalancer? Est-ce qu'on a vu la fin de la baisse? Et puis, il n'y a personne qui a une boule de cristal. Ce qui est certain, ce qui est inusité dans cette crise, c'est qu'il n'y a rien pour lequel on peut s'accrocher. Les données, les statistiques économiques récentes ne sont plus d'une utilité parce qu'il ne veut plus rien dire. L'impact va être tellement puissant sur l'économie. Donc, on revient à la notion de gérer ses émotions. On le dit souvent, de respecter, d'être discipliné par rapport à son plan d'investissement, à moins que les hypothèses fondamentaux ont changé dans les objectifs, dans le plan en tant que tel, ben, il faut vraiment respecter sa politique et son plan d'investissement. C'est simple à dire, mais c'est pas facile. Et je répète, c'est simple, mais c'est pas facile émotivement de tenir le coup, mais il faut le faire.
Comment abordez-vous le rééquilibrage de portefeuille? C'est quoi le bon temps pour rééquilibrer?
Je ne suis pas sûr qu'il y ait un bon temps, Raymond. Il faut qu'on ait une approche qui est graduelle et prudente. Je pense que chaque client réagit à ce qui se passe en ce moment différemment. Mais pour l'ensemble de nos clients, on n'est pas prêt à rebalancer tout de suite. Les marchés sont trop volatiles, à la hausse comme à la baisse. Donc, il faut être prudent. Et je pense que c'est la communication qui est clé en ce moment avec nos clients pour voir s'ils sont confortables de rebalancer. Oui, c'est une chose de dire on va rebalancer, mais dans ces temps de crise comme on a en ce moment, je l'ai mentionné un peu plus tôt, si tu es médecin, tu es au front, tu n'es pas en train de perdre ton emploi. Donc, pour toi, c'est peut-être plus facile de dire oui, on va rebalancer, on va aller de l'avant. Pour d'autres qui travaillent en industrie, qui sont sur le point de perdre leur emploi ou qui ont été mis à pied temporairement, ou même que l'entreprise ne se relèvera pas de la crise, c'est difficile de leur dire on va aller rebalancer, vendre le revenu fixe de leur portefeuille pour aller acheter des actions. Donc, c'est vraiment, ça passe vraiment par la communication avec le client.
James?
Alors, pour moi, nous, la discipline de rééquilibrage, c'est plus 5 %. Donc, si quelqu'un est supposé avoir une allocation dans son plan d'investissement de 60 %, on est rendu à 65 %. On vend, on prend des gains et on revient à notre politique. Donc, quand c'est à la baisse, la règle de 5 % s'applique, sauf que comme François a dit, c'est un temps de crise et la volatilité est beaucoup plus élevée. Fait que nous, on est beaucoup plus prudents. On va être graduel dans l'implantation du rebalancement et il faut parler aux clients pour s'assurer que rien n'a changé dans leur situation. Donc, pour l'instant, si vous regardez votre portefeuille, l'auditeur doit s'assurer d'une part que son panier sécur, il fait ce qu'il est supposé de faire. Des obligations, ils se maintiennent bien au niveau de la valeur, puis deux, ils sont liquides. Donc, deuxièmement, c'est de regarder l'allocation des actions. Comment est-ce que ça a performé? Est-ce que c'est mieux ou ça ressemble à la baisse du marché? Et là, c'est une fois qu'on va avoir un peu plus de visibilité sur l'impact économique, ben ça va être à graduellement revenir vers sa politique à long terme. Alors, oui, dans notre, si on regarde un sommaire du sondage des conversations clients depuis 10 jours, sur 105 familles, on a à peu près deux qui ont décidé de décaisser partiellement et on en a à peu près 4 ou 5, François, corrige-moi, qui ont décidé « Hey, c'est temps d'acheter, il faut que j'embarque, puis je veux mettre de l'argent additionnel. » Fait qu'on dit à peu près pourcentage, j'ai 95-96% des clients si je veux respecter ma politique de placement. Il faut comprendre aussi que leur portefeuille, la structure a été montée par nous et donc on sait que quand ça va reprendre les actions, parce qu'on est très bien diversifié et qu'on se base sur la science d'investissement pour structurer leur portefeuille, ils ont confiance que ça va reprendre. Comme ça a été le cas en 2019, après la baisse de 2018, puis pour ceux qui sont avec nous depuis beaucoup plus longtemps, comme la reprise de la crise financière.
Oui, en fait, je pense que c'est quelque chose d'important à retenir, c'est que quand on traverse la crise, la chose importante, c'est d'être bien positionné pour participer dans la reprise lorsqu'elle va se produire.
Oui, puis je mettrai en garde les gens. Il y en a peut-être certains qui sont tentés de prendre leur économie ou en cas d'urgence, puis de l'investir dans le marché parce qu'on a une correction comme ça. Mais c'est difficile de voir quand ça va finir. Puis les économies en cas d'urgence ne devraient pas être utilisées pour remettre dans le marché dans des moments
Non,
comme
mais
ça,
non.
là.
Le point que j'apporterais, Raymond, c'est qu'au niveau du rebalancement, quand on le vit, la grosse crise, la grosse volatilité négative, émotivement, c'est toujours pire que la dernière fois. Déjà, il y a des gens qui disent « Ah, c'est pire qu'en 2008 ». Et moi, j'ai des crises financières, j'en ai vu depuis le crash boursier de 1987. Quand on les vit, ils sont tous assez difficiles émotivement. Fait que chaque crise est différente, celle-ci est différente, les enjeux sont différents, mais il y a des similitudes encore une fois. Et François a mentionné un point tantôt qui est essentiel, puis c'était un de nos argumentaires qu'on avait en 2009, 10, 11, lorsqu'on rebalançait. Est-ce qu'on croit dans le système capitaliste de se réinvigorer, de revenir et de se remettre sur une pente ascendante? Et c'est la réponse, fondamentalement, ça doit être oui.
Quelque chose de particulier qu'il y a eu dans la crise jusqu'à présent, surtout la semaine dernière, il y a eu beaucoup de volatilité dans les obligations d'FNB. Donc, vous, est-ce que ça vous a affecté dans l'opération? Puis, comment est-ce que vous vous ajustez par rapport à ça?
Bien, c'est une donnée que j'ai regardée particulièrement, Raymond, parce que pas que je m'apprêtais à faire des transactions de rebalancement, mais je regardais la baisse sur certains FNB ici au Canada, surtout les FNB corporatifs, 1 à 5 ans qu'on utilise, dont des fonds de Vanguard. Puis, il me semblait y avoir un disconnect entre le prix où les titres se transigeaient, le FNB se transigeait pendant la journée, et la valeur nette au livre par part qui était publiée par Vanguard pour la fermeture de la veille. Donc, il y avait des écarts assez importants là, de 5-6 % à l'occasion et même plus durant la journée. Donc, pour moi, c'était un signe de dire OK, drapeau élevé, là, fais attention si tu as à transiger des FNB. Là.
Prudence, hein? Moi, j'ai analysé ça. En fait, j'ai écrit un blog post sur ce sujet-là. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Mais effectivement, fallait s'y attendre un peu, sauf que la volatilité a été sûrement plus élevée que ce que je me serais imaginé. Ce qui arrive également dans le marché actuellement, c'est que là, tout le monde a été un peu saisi de se faire renvoyer chez eux. Et tout à coup, beaucoup de gens, tous en même temps, ont besoin de générer de l'argent comptant. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour générer de l'argent comptant? Soit ils vendent des titres, puis de préférence des obligations. Donc, le marché des obligations a un impact sur les FNB d'obligations. Ou encore, ils vont tirer sur leur ligne de crédit avec la banque parce qu'il y a tous ces gens qui sont privés et ces entreprises qui sont privées de revenus. Donc, on a un genre de credit crunch à l'heure actuelle. Puis ça a eu un impact la semaine dernière important sur les obligations. Donc, ça ne veut pas dire que les titres ne sont pas de qualité. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il y a eu un mouvement de vente provoqué par des besoins de liquidité. Puis ces besoins de liquidité-là, ben, ils sont momentanés, je crois, évidemment. Donc, moi, j'invite les auditeurs à regarder le blog post. Il y en a eu plusieurs qui ont été écrits, mais j'ai essayé d'en écrire un qui résumait assez bien la situation à propos des FNB d'obligations et pourquoi les FNB d'obligations ont été plus volatiles que les fonds mutuels d'obligations dans la dernière semaine.
J'aimerais aussi ajouter, Raymond, que ce genre de volatilité dans les périodes de crise, oui, ça nous surprend parce que les obligations, c'est supposé être le panier sécure. En bout de piste, ça a toujours quand même demeurer liquide. Mais deuxièmement, il faut s'attendre que ce genre de choses-là peut arriver, que ce n'est pas anormal. On pense juste à l'incertitude au niveau des compagnies, certaines dont la situation financière est très solide et avait le cote de leur papier commercial était très bonne, mais leur modèle d'affaires dans le contexte actuel est complètement démoli. On pense aux lignes aériennes ou des industries du tourisme ou autres. Donc, pour nos auditeurs, c'est pas que le marché était dysfonctionnel, c'est qu'il a saisi, puis l'incertitude en fait en sorte qu'on a vécu cette expérience-là. Est-ce que, selon toi, Raymond, ce que tu vois dans les marchés pour ce papier-là, c'est revenu à la normale, que les transactions par rapport à la valeur d'actifs nets sont plus près au niveau des prix?
Bien, il faut comprendre que la valeur nette de l'actif d'un fonds, c'est une évaluation basée sur un modèle théorique. Donc, ça se peut qu'il y ait encore des désalignements entre les valeurs de l'actif net et le prix coté en bourse. Par contre, ce qu'on voit, c'est que, puis tous nos auditeurs sont très au courant, les banques centrales injectent massivement de la liquidité dans le système. C'est exactement dans le but de redémarrer le bon fonctionnement des marchés obligataires. Donc, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que ce dont nous avons été témoins, c'est un dysfonctionnement momentané au niveau du marché obligataire. Je ferai un parallèle avec, admettons, une panne d'électricité. C'est un peu comme une panne d'électricité parce qu'il est arrivé un moment dans le marché où beaucoup de gens ont eu besoin de liquidité en même temps. Et je notais sur le site ETF.com, il mentionnait qu'il y avait eu des remboursements importants au niveau des FNB d'obligations de grande qualité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de la ligne, pour les investisseurs qui demeurent investis, ils ne sont pas affectés par ces fluctuations importantes-là du moment qu'ils restent investis pour le long terme parce qu'ils demeurent propriétaires d'un portefeuille d'obligations de grande qualité. Donc, l'important, c'est de ne pas vendre à l'aveuglette là, quand on détient des FNB d'obligations, surtout quand on traverse une période importante de turbulence comme celle-là.
J'ajouterais en date d'aujourd'hui, on est le 26, que ça semble être normalisé. J'ai regardé les valeurs actuelles nettes par part pour certains fonds d'obligation ce matin par rapport au prix de fermeture hier. Puis on est à 2,5, 2,6 en dessous. Donc, on est loin des 4, 5, 6 qu'on a vu la semaine dernière, là. Ouais. Donc, ça s'est un peu normalisé, en effet.
Je voulais ajouter, c'est un autre exemple où quand on vend en période de crise, on s'est comme débarqué de son banc dans le manège des collines russes. Là. Fait que faut vraiment rester discipliné.
Oui, d'accord. Pouvez-vous me dire comment vous trouvez que la crise actuelle se compare aux autres crises que vous avez traversées?
Oui, ben pour l'instant, là, par rapport à d'autres crises, on a une crise présentement, une crise sanitaire mondiale, qui va avoir des répercussions sur l'économie. En 2008, ce qu'on avait, c'était une crise, un problème systémique. C'était une crise où le système financier mondial était sur le point de s'effondrer. Donc, on n'est pas dans la même situation, c'est différent. J'ai bon espoir qu'après des quelques semaines de quarantaine, on va s'y remettre, puis que maintenant que les gouvernements ont injecté des sommes astronomiques pour soutenir l'économie, les individus, je pense que ça a été assez rapide et qu'on va s'en sortir. Puis il y a Lawrence Fink, qui est le CEO puis chairman de la très puissante BlackRock, firme de gestion de capitaux qui ont 7 000 milliards US sous gestion, qui a mentionné que la crise actuelle était très importante, mais comparée à 2008, quand le système financier était sur le point de s'effondrer et de moins d'envergure là, quand même.
En fait, en ce moment, on a comme l'impression qu'il n'y a pas juste une pandémie du virus COVID-19, mais il y a une pandémie de faire peur aux gens avec des nouvelles et des manchettes qui prévoient la fin du monde économique. C'est sûr que c'est du jamais vu où plusieurs industries vont être frappées durement à très court terme. Mais encore une fois, notre confiance dans le système capitaliste fait en sorte que, et l'ingéniosité des humains, on va reprendre probablement plus vite que prévu. C'est sûr que cette crise, ça va être comme 9-11, ça va être comme 2008, ça va changer beaucoup de choses au niveau mondial, et il va y avoir de l'opportunité, et ceux qui seront investis intelligemment avec un portefeuille qui est bien structuré vont en profiter.
Moi, j'aimerais ajouter, James, François, vous me corrigerez par la suite si vous croyez que je me trompe, mais je pense que nos auditeurs, la première des choses, ils doivent s'armer de patience un peu. On a eu un rebond dans les marchés dans les deux derniers jours, mais selon moi, il va encore avoir pas mal de péripéties. On ne connaît pas toutes les conséquences là, de la crise sanitaire. Elle pourrait durer un certain temps et on n'en mesure pas pleinement les répercussions. Ça pourrait être plus modéré que ce qu'on s'imagine, mais je pense qu'on est mieux de partir d'une prémisse qu'il va falloir être patient. Ça va durer un certain temps. Ça risque d'être difficile. De ce que j'ai conclu aussi d'important pour nos auditeurs, c'est que pour ce qui est du rééquilibrage de portefeuille, donc peut-être que je pense que plusieurs de nos auditeurs se demandent qu'est-ce que je devrais faire, est-ce que je devrais acheter, est-ce que je devrais vendre dans le marché. La première des choses, c'est certainement pas le temps de liquider son portefeuille. La deuxième des choses, c'est si vous voulez rééquilibrer, c'est-à-dire vendre des obligations pour racheter des actions, bien, c'est de le faire avec beaucoup de prudence. Nous, personnellement, et de ce que j'entends de vous, c'est qu'on n'est pas nécessairement pressé de le faire. Un marché baissier, ça peut durer généralement plusieurs mois. Donc, c'est d'être patient et puis de ne pas se précipiter, mais aussi c'est d'être prudent dans la manière qu'on exécute les transactions dans le marché, parce que même si on ne croit pas nécessairement que la volatilité va revenir dans les FNB d'obligation, il faut toujours être à l'affût puis placer des ordres limites dans le marché pour avoir le contrôle sur le prix auquel on vend nos FNB d'obligation, et placer des ordres limites pour avoir le contrôle sur les prix auxquels on achète les FNB d'action.
D'accord avec ça, Raymond.
Oui, non, je suis d'accord avec tes propos. Le prochain point que j'aimerais apporter, c'est quelles sont nos priorités pour nous dans l'équipe prospectivement. Effectivement, le mot, c'est communication. Okay. Donc, on va continuer de communiquer beaucoup plus qu'à l'habitude avec nos courriels aux clients, les blogs, nos balados. Notre bureau est en télétravail, ça fonctionne très bien. On s'est structuré proactivement pour s'assurer la continuité des services. Donc, le client ne devrait pas sentir aucun changement au niveau du service, autre qu'il n'y a plus de rencontre face à face. Puis, au niveau du téléphone, au niveau des clients, puis on espère au niveau des auditeurs qu'il faut croire dans le plan d'investissement qu'on a mis en place, et que ça va protéger le capital si on reste discipliné et on ne panique pas dans cette période qui est très, très difficile. Je répète ce que j'ai dit plus tôt, c'est simple, mais ce n'est pas facile.
Ouais, en fait, je pense que le plan d'investissement, il est mis en place justement pour nous donner des guides pour traverser le genre de période où on est en ce moment.
Exactement.
Excellent. Eh bien, c'est tout pour ce premier épisode consacré à la crise du coronavirus. Je m'appelle Raymond Kerzero. James Parkin, gestionnaire de portefeuille, merci beaucoup.
Bienvenue Raymond, à la prochaine.
Et François Doyon-La Rochelle, gestionnaire de portefeuille, merci à toi aussi.
Merci Raymond.
Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou un commentaire sous cet épisode, ou même à envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez me joindre via LinkedIn ou encore par courriel à raymondk@commercialpwlcapital.com. Alors à très bientôt et soyez prudents!